Nouvelle policière, coup de gigot de Roald Dahl. Dans ses rideaux tirés, la chambre était chaude et propre. Les deux lampes éclairaient deux fauteuils qui se faisaient face et dont l'un était vide. Sur le buffet, il y avait deux grands verres, du whisky, de l'eau gazeuse et un seau plein de cubes de glace. Mary Maloney attendait le retour de son mari. Elle regardait souvent la pendule, mais elle le faisait sans anxiété, uniquement pour le plaisir de voir approcher la minute de son arrivée. Son visage souriait. Chacun de ses gestes paraissait plein de sérénité. Penchée sur son ouvrage, elle était d'un calme étonnant. Son teint, car c'était le sixième mois de sa grossesse, était devenu merveilleusement transparent. Les lèvres étaient douces et les yeux, au regard placide, semblaient plus grands et plus sombres que jamais. À 5h05, elle se mit à écouter plus attentivement et au bout de quelques instants, exactement comme tous les jours, elle entendit le bruit des roues sur le gravier. La porte de la voiture claqua. Les pas résonnèrent sous la fenêtre. La clé tourna dans la serrure. Elle posa son ouvrage, se leva et alla au-devant de lui pour l'embrasser. « Bonjour, chérie, » dit-elle. « Bonjour, » répondit-il. Elle lui prit son pardessus et le rangea. Puis elle passa dans la chambre et prépara les whiskies, un fort pour lui, un faible pour elle-même. De retour dans son fauteuil, elle se remit à coudre, tandis que lui, dans l'autre fauteuil, tenait son verre à deux mains, le secouant en faisant teinter les petits cubes de glace contre la paroi. Pour elle, c'était toujours un moment heureux de la journée. Elle savait qu'il n'aimait pas beaucoup parler avant d'avoir fini son premier verre. Elle-même se contentait de rester tranquille, se réjouissant de sa compagnie après les longues heures de solitude. La présence de cet homme était, pour elle, comme un bain de soleil. Elle aimait par-dessus tout sa mâle chaleur, sa façon nonchalante de se tenir sur sa chaise, sa façon de pousser une porte, de traverser une pièce à grands pas. Elle aimait sentir se poser sur elle son regard grave et lointain. Elle aimait la courbe amusante de sa bouche et surtout cette façon de ne pas se plaindre de sa fatigue, de demeurer silencieux, le verre à la main. « Fatiguée, chérie ?»« Oui, » dit-il, « je suis fatiguée. » Puis il fit une chose inhabituelle. Il leva son verre à moitié plein et avala tout le contenu. Elle ne l'y épiait pas réellement, mais le bruit des cubes de glace retombant au fond du verre vide retint son attention. Au bout de quelques secondes, il se leva pour aller se verser un autre whisky. « Ne bouge pas, j'y vais, » s'écria-t-elle en sautant sur ses pieds. « Rassieds-toi, » dit-il. Lorsqu'il revint, elle remarqua que son second whisky était couleur d'ambre foncé. « Chérie, veux-tu que j'aille chercher tes pantoufles ?»« Non. » Il se remit à siroter son whisky. Le liquide était si fortement alcoolisé qu'elle put y voir monter les petites bulles huileuses. « C'est tout de même scandaleux, » dit-elle, « qu'un policier de ton rang soit obligé de rester debout toute la journée. » Comme il ne répondait pas, elle baissa la tête et se remit à coudre. Mais chaque fois qu'il buvait une gorgée, elle entendait le tintement des cubes de glace contre la paroi du verre. « Chérie, » dit-elle, « veux-tu un peu de fromage ? Je n'ai pas préparé de dîner puisque c'est jeudi. »« Non, » dit-il. « Si tu es trop fatiguée pour dîner dehors, » reprit-elle, « il n'est pas trop tard, il y a de la viande dans le réfrigérateur. Tu pourrais manger ici même, sans quitter ton fauteuil. » Ses yeux attendirent une réponse, un sourire, un petit signe quelconque, mais il demeura inflexible. « De toute façon, » dit-elle, « je vais commencer par t'apporter du fromage et des gâteaux secs. »« Je n'y tiens pas, » dit-il. Elle s'agita dans son fauteuil, ses grands yeux toujours posés sur lui. « Mais tu dois dîner. Je peux tout préparer ici. Je serai très contente de le faire. Nous pourrions manger du rôti d'agneau ou du porc ou ce que tu voudras. Tout est dans le réfrigérateur. »« N'y pense plus, » dit-il. « Mais chérie, il faut que tu manges. » « Je vais préparer le dîner et puis tu mangeras ou tu ne mangeras pas, ce sera comme tu voudras. » Elle se leva et posa son ouvrage sur la table, près de la lampe. « Assieds-toi, » dit-il, « j'en ai pour une minute, assieds-toi. » C'est alors seulement qu'elle commença à s'inquiéter. « Assieds-toi, » répéta-t-il. Elle se laissa retomber lentement dans son fauteuil, ses grands yeux étonnés, toujours fixés sur lui. Il avait fini son second whisky et regardait le fond de son verre vide en fronçant les sourcils. « Écoute, dit-il, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi donc, chérie, qu'y a-t-il ? » À présent, il se tenait absolument immobile, la tête penchée en avant. La lampe éclairait la partie supérieure de son visage, laissant la bouche et le menton dans l'ombre. Elle remarqua le frémissement d'un petit muscle près du coin de son œil gauche. « Je crains que cela te fasse un petit choc, dit-il, mais j'ai longuement réfléchi pour conclure que la seule chose à faire, c'était de te dire la vérité. J'espère que tu ne me blâmeras pas trop. » Et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Ce ne fut pas long, 4 ou 5 minutes au plus. Pendant son récit, elle demeura assise, saisie d'une sourde horreur. Elle le vit s'éloigner un peu plus chaque mot qu'il prononçait. « Voilà, c'est ainsi, conclut-il. » Et je sais que je te fais passer un mauvais moment, mais il n'y avait pas d'autre solution. Naturellement, je te donnerai de l'argent. Je te ferai le nécessaire pour que tu ne manques de rien. Inutile de faire des histoires. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça ne faciliterait pas ma tâche. » Sa première réaction était de ne pas y croire. Tout cela ne pouvait être vrai. Il n'y avait rien dit de tout cela. C'est elle qui avait dû tout imaginer, peut-être, en refusant d'y croire. En faisant semblant de n'avoir rien entendu, se réveillerait-elle de ce cauchemar et tout rentrerait dans l'ordre. Elle eut la force de dire « Je vais préparer le dîner. » Et cette fois, il ne la retint pas. En traversant la pièce, elle eut l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle ne ressentit rien. Rien, excepté une légère nausée. Tout était devenu automatique. Les marches qui la conduisaient à la cave, électricité, le réfrigérateur, sa main qui y plongea pour attraper l'objet le plus proche. Elle le sortit, le regarda, il était enveloppé, elle le retira le papier, c'était un gigot d'agneau. Bien, il y aurait du gigot pour dîner, tenant à deux mains le bout de l'os, elle remonta les marches. Et lorsqu'elle traversa la salle de séjour, elle aperçut son mari, de dos, debout devant la fenêtre. Elle s'arrêta. « Pour l'amour de Dieu, dit-il sans se retourner, ne prépare rien pour moi, je sors. » Alors, Mary Meloney fit simplement quelques pas vers lui, et sans attendre, elle leva le gros gigot aussi haut qu'elle put au-dessus du crâne de son mari, puis cogna de toutes ses forces. Elle aurait pu aussi bien l'assommer d'un coup de massue. Elle recula. Il demeura miraculeusement debout pendant quelques secondes, en titubant un peu. Puis il s'écroula sur le tapis. Dans sa chute, qui fut violente, il entraîna un guéridon. Le tintamarre aida Mary Meloney à sortir de son état de demi-inconscience, à reprendre contact avec la réalité. Étonnée et frissonnante, serrant toujours de ses deux mains son ridicule gigot, elle contempla le corps. « Ça y est, se dit-elle, je l'ai tué !» Son esprit était devenu soudain extraordinairement clair. Épouse de détective, elle savait très bien quelle peine elle risquait. Cela ne l'inquiétait nullement. Cela serait plutôt un soulagement. Mais l'enfant qu'elle attendait. Que faisait la loi d'une meurtrière enceinte? Tuait-on les deux, la mère et l'enfant? Ou bien attendait-on la naissance? Comment procédait-on? Mary Meloney n'en savait rien. Elle était loin de s'en faire une idée. Elle alla dans sa cuisine, alluma le four, et mit le gigot à rôtir. Puis elle leva les mains et monta dans sa chambre en courant. Là, elle s'assit devant sa coiffeuse, se donna un coup de peigne, se repoudra et mit un peu de rouge à lèvres. Elle tenta de sourire. Le résultat fut lamentable. Elle fit une nouvelle tentative. « Bonjour, Sam, » dit-elle joyeusement à haute voix. La voix, comme le sourire, lui parut dépourvue de naturel. « Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre ?» Et puis une boîte de petits pois ? Cela allait mieux, pour le sourire et pour la voix. Elle répéta plusieurs fois son petit texte, puis elle descendit, prit son manteau, sortit par la petite porte, traversa le jardin pour se trouver dans la rue. Il n'était pas tout à fait 6 heures, et l'épicerie était encore éclairée. « Bonsoir, Sam, » dit-elle joyeusement à l'homme qui se trouvait derrière le comptoir. « Bonsoir, Madame Meloney. Comment allez-vous ? Pourriez-vous me donner quelques pommes de terre et puis une boîte de petits pois ? » L'homme lui tourna le dos pour descendre du rayon la boîte de petits pois. « Patrick a décidé de ne pas sortir ce soir, il est trop fatigué, dit-elle. D'habitude, nous sortons le jeudi soir, vous savez bien. et je m'aperçois que je n'ai pas de légumes à la maison. Et de la viande, Madame Malonnet, vous n'en prenez pas?
Non, merci, j'en ai. J'ai un beau gigot congelé.
Ah! Au fond, je n'aime pas tellement faire cuire de la viande congelée, Sam. Mais cette fois-ci, j'ai essayé. Qu'en pensez-vous?
Personnellement, dit le commerçant, je ne crois pas qu'il y ait une différence.
Voulez-vous de ces pommes de terre de l'Idaho?
Oh oui, ça ira très bien.
Et avec ça? Demanda l'épicier, en souriant. Comme dessert, qu'allez-vous lui donner comme dessert?
Eh bien, que me conseillez-vous, Sam?
L'épicier passa en revue ses rayons. Ce beau gâteau au fromage, par exemple, je crois savoir qu'il aime ça.
Parfait, dit-elle. Il adore le gâteau au fromage. Puis après avoir payé, elle dit avec un sourire radieux.
Merci, Sam. Bonsoir.
Bonsoir, Madame Malonnet, et merci.